C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur, Albert Camus, 1913-1960. Écrivain, philosophe. Français, agnostique, hétérosexuel, politique, gauche, œuvre. L'étranger, roman, 1942. Personnage, Meursault. Adaptation, L'étranger, film de Luchino Visconti en 1967, Marcello Mastroianni interprétant le rôle de Meursault. Deux bandes dessinées. Il y a dans L'étranger une maigreur démonstrative rare chez Camus qui a souvent tendance à guider son lecteur, usant d'une méthode à peine plus fine que la démonstration, le contre-exemple. Peu fine, mais directe, et touchant ainsi un large public. La finesse, hélas, ne parle qu'aux fins. Le théâtre est idéal pour démontrer, il est même l'apothéose de la littérature de preuve. Celui de Camus n'a pas toujours évité de nous prendre pour des élèves que l'on guide, comme celui de Sartre, comme celui d'Alexandre Dumas fils, comme celui de tant de dramaturges dont les pièces sont des conceptions morales mélodramatisées. Chose plus compliquée à réussir dans le roman qui n'est pas direct, de face, en noir et blanc. Le roman travaille l'incertain, le tremblé, le douteux. Ce que l'on a appelé roman à thèse, pour le discréditer d'ailleurs, a sa séduction. Celle des routes bien bituminées qui mènent à destination sans surprise. Les romans à thèse de droite avaient prospéré de 1880 aux années 1930, et puis, les thèses de Barrès et de Bourget ayant mené où l'on sait, on est passé aux romans à thèse de gauche, disons humaniste. Ils étaient dépressifs, on les comprend. Après 60 ans de persiflage et de posture virile, le mal occidental compensait. L'un des premiers a été le Roquentin de la nausée de Sartre en 1938. 4 ans plus tard, c'était le Meursault de l'étranger. De la part d'un homme aussi porté à démontrer et à expliquer que Camus, il n'y a dans ce roman aucune démonstration, aucune explication, aucune psychologie, aucune logique. Cela lui confère un mystère qui fait que l'on en parlera encore longtemps, parce que rien n'est résolu, et tant mieux. La non-résolution, l'opacité, ou plutôt la compacité, entraîne de la réflexion et aussi des commentaires qui entretiennent la survie d'une œuvre. La principale qualité de l'étranger est qu'il n'a pas de pourquoi ni de réponse à un pourquoi. Pourquoi est une question enfantine qui procède de la croyance que le principe de causalité est explicite. Il y a rarement de cause très claire aux choses dans la vie et il n'y en a jamais dans la bonne littérature qui cherche le comment. Si l'étranger a un défaut, c'est que dans 2 brefs passages, l'auteur ne peut s'empêcher de prendre la place du narrateur. Le narrateur est Meursault, qui nous raconte son crime. Camus, lui prenant la parole, son lyrisme s'exprime, au lieu que Meursault est un terne. C'est notable dans le récit de l'assassinat, où tout d'un coup on a affaire à des tentatives de style qui parviennent à une sorte de mauvais goût du genre « il m'a semblé que le ciel s'ouvrait de toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu », qui n'est pas du tout du parler habituel de Meursault. Mais enfin, Meursault reprend vite la parole et nous en revenons à ce personnage un pas à côté de la vie, concentré, dédaigneux, trouvant tout tellement égal qu'il accepte, à son détriment, le point de vue des autres. Qui est Meursault ? Pour en parler, je reçois André Abou, professeur de linguistique appliquée à l'Université de Paris et qui a établi et annoté l'étranger dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. André Abou, je demande dans cette émission, pour commencer, à tous mes invités, à quoi ressemble le personnage, mais dans le cas de Meursault, c'est simple, il ne ressemble à rien car il n'est jamais décrit.
C'est exact, il est décrit par les autres. Par exemple, Raymond, le magasinier, n'est-ce pas, l'interpelle à un moment donné dans la cage d'escalier, il lui dit qu'il avait appris la mort, le décès de sa mère, et il lui dit, vous comprenez, monsieur Meursault, et c'est un des exemples où on a l'apparition du nom du personnage.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas son physique non plus.
On n'a pas son physique, on l'a, Camus, enfin, on l'a. Pas dans le texte du roman, mais on l'a, par exemple, dans les carnets, où Camus note à un moment donné que 3 personnes sont entrées dans la composition du personnage de Meursault, dont le frère de sa petite amie, Christiane Galindo. Le frère s'appelle Pierre Galindo. Et si l'on accorde foi à ce que dit Camus, on a un exemple, alors que on ne sait pas à quoi il ressemble, s'il est maigre, s'il est frappé d'obésité, on ne sait pas. À un moment donné, il nous est dit qu'il est massif. Et on a donc quelque chose qui ressemble à ce que pourrait être la présentation du personnage, mais on ne l'a pas directement par un des personnages. On a indirectement le fait, par exemple, Meursault note que le jour où il reçoit l'annonce du décès de sa mère, les autres convives du restaurant Céleste disent ils avaient tous beaucoup de peine pour moi. Donc on a une sorte de regard indirect qui est posé sur Meursault, mais on ne le voit pas de face, effectivement.
Alors, ce Meursault, il a un métier qui est à peine défini, à peine plus défini que son physique d'ailleurs. Il nous dit qu'il va au bureau, il a un patron.
Il travaille, il est chez un courtier maritime, il nous parle des connaissements. À un moment donné, quand il fait part de l'entretien qu'il a eu avec son patron, lui disant que il lui propose d'aller habiter à Paris car le bureau se décentralise et augmente d'effectifs, et il dit il travaille chez un courtier maritime où il fait des connaissements.
Qu'est-ce que c'est qu'un connaissement ?
Un connaissement, c'est renseigner un document qui permet de savoir qui donne l'ordre, quel est le produit exporté, quel est le type de transport souhaité, etc. etc.
Alors, nous n'avons pas dit que c'est en Algérie que ça se passe. Meursault est ce qu'on appelait alors un Européen, c'est-à-dire un Blanc. Et l'intéressant est que, me semble-t-il, il fait partie d'une classe qui, en métropole, serait relativement inférieure, alors qu'en Algérie, à cause des rapports de race, comme on disait aussi, il est supérieur. Est-ce que Camus n'aurait pas voulu donner un signe de cela, d'après vous, en lui donnant ce nom de vieille ville française, de vieux vin français ?
Oh, c'est très simple. En ce qui concerne, je vais peut-être vous étonner, en ce qui concerne l'attribution du nom de Meursault, vous savez que dans La mort heureuse, le roman qui précède L'étranger et qui n'est pas publié parce qu'il est remisé à cause de l'avis de Jean Grenier, qui émet un avis négatif, le personnage s'appelle Meursault. Oui. M-E-R-S-A-U-L-T. Bien. Alors, on a cherché d'où venait, pourquoi. On sait que Camus a traversé, durant cette période, une influence tindalienne avérée. N'est-ce pas ? Le culte du petit Février, les pilotis du romancier, etc., etc. Si je ne suis pas clair, dit Camus, tout mon monde est anéanti. Donc, Meursault, pourquoi Meursault ? On l'a trouvé. Parce que Camus, qui est journaliste à Alger Républicain et qui suit les grandes enquêtes, trouve à un moment donné, lors des déplacements de l'autorité judiciaire, le juge d'instruction est accompagné d'un greffier dont le nom est Meursault. Et Robles, à un moment donné, oui, dit, Emmanuel Robles, son ami, dit, oui, le glissement de Meursault à Meursault a été effectué parce que il y a la volonté chez Camus de dénoter deux mots, le soleil et la mer. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je n'y adhère pas, mais... Et comment passe-t-on de Meursault à Meursault ? Eh bien, tout simplement parce que, à un moment donné, Camus, qui lit beaucoup les journaux, trouve l'annonce qu'un prix littéraire va récompenser l'auteur de 100 bouteilles de Meursault. Ainsi s'effectue le glissement de Meursault à Meursault.
Alors, ce Meursault, est-ce que vous diriez avec moi que c'est un sensualiste ? Il éprouve la chaleur, il éprouve les plaisirs de l'amour. C'est un sensualiste qui serait même assez passif, parce que les choses lui arrivent qu'il ne cherche pas. L'amour, par exemple, ça se fait comme ça, parce qu'il nage avec une fille dans la mer, et puis l'enchaînement physique se produit.
Tout à fait d'accord avec vous. Meursault est guidé par les sensations. Dans toute la première partie, il n'agit pas, on dirait plutôt qu'il réagit à des sensations.
Est-ce que vous ne diriez pas que Meursault a quelque chose de mou et même de prétentieux ? Quand il parle des autres, il voit toujours leurs défauts physiques. Je vais vous citer quelques exemples. Un petit bonhomme qui ressemblait à une belette engraissée. À propos d'un homme assis à son bureau, ses petites jambes. Le voisin qui a, je cite, des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune et rare. Il emploie 4 fois, si je ne me suis pas trompé, le mot ridicule.
C'est exact. Il est sensible à tous les petits détails. On a plutôt l'impression d'un personnage qui aurait une intelligence enfantine. D'ailleurs, il dit la même chose à propos des personnages, à propos des petits vieux lors de la veillée mortuaire. Il dit qu'ils avaient l'air d'être assis comme les membres d'un jury, la banquette de tramway. Il a des comparaisons, il a des métaphores ou des comparaisons qui sont prises dans le vocabulaire ou dans le registre de la primarité ou de l'intelligence tout simplement guidée par le matériel. Mais ça, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, les choses vont évoluer.
Alors, racontez-nous, André Abou, comment se passe l'assassinat, brièvement.
Oh, l'assassinat se passe. Meursault est invité par un ami de Raymond le magasinier, qui est enfin un proxénète, et qui cherche un témoin pour prouver que ce n'est pas lui qui a été à l'origine et des coups qu'il a portés à sa maîtresse lors de la venue du policier. Il cherche toujours un témoin qui soit en quelque sorte un témoin de moralité. Et donc, pour récompenser Meursault de son bon témoignage, il lui dit qu'il veut être son ami et que après, ben, tout ira bien et que un de ses amis maçons, qui a un petit cabanon sur une plage, les a invités à passer un dimanche. Donc, Meursault part avec Marie et se rend sur une plage où il rencontre les deux, le mari, le maçon, et sa femme. Le maçon leur dit que le repas n'est pas prêt et qu'il faut revenir, donc ils vont se promener sur la plage, guidés par Raymond. Mais, et cela a été annoncé quasiment, les deux Arabes, c'est-à-dire notamment le frère de la maîtresse, celle qui a reçu les coups et qui est en fait exploitée par le proxénète, les a suivis et qu'ils viennent à leur rencontre. Et Raymond dit à Camus, s'ils viennent...
À Meursault.
À Meursault, s'ils viennent vers nous, moi, je m'occupe de celui-ci, il s'occupe de celui-là. Bon. La confrontation a lieu et les deux Arabes s'en vont. Vient l'heure du repas, on remonte au cabanon et à ce moment-là, la femme de maçon, qui est en quelque sorte choquée de ce qui vient de se passer, pleure et Meursault, qui ne peut supporter les pleurs de femme, redescend et s'en va chercher un coin d'ombre avec un soleil qui est aveuglant. Il se rend vers la source où il était allé une première fois et où ils avaient rencontré les Arabes. Et là, il trouve un seul des deux protagonistes. Et quand il aperçoit Meursault, il sort son couteau et immédiatement, le soleil va se refléter sur la lame, provoquant l'éblouissement de Meursault, lequel, encore une fois, preuve qu'il est agi par les événements, crispe sa main sur le revolver, appuie sur le barillet, et c'est ainsi, comme il dit, que tout a commencé. Que je frappais 4 coups brefs sur la porte du malheur, c'est-à-dire qu'il tire 4 balles sur le corps qui ne réagissait plus.
Et donc s'ensuit la deuxième partie du roman où Meursault est emprisonné. Il y a une instruction qui, nous dit-on, dure 11 mois et où il va être condamné à mort. Et là, ce qui est excessivement intéressant, c'est que, comme tout le monde sait, c'est qu'on n'arrive pas à accéder aux raisons de l'acte de Meursault, puisque le juge d'instruction ou le procureur lui dit lui-même « Mais pourquoi ?» Et comme je le disais, il n'y a pas de pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne aussi lieu à des scènes extrêmement bien réussies où les adversaires, si je peux dire, de Meursault sont très bien montrés, c'est-à-dire le procureur, le juge d'instruction, le personnage du prêtre, très duplice aussi. Et on sent que là, Meursault est entouré d'un réseau de mauvaise foi autour de lui.
Oui, alors ce qui se passe, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, Meursault dit À un moment donné, quand on lui pose la question « Pourquoi ?», et il dit « C'était à cause du soleil. Il y a eu des rires dans la salle. » Et, en fait, dans la deuxième partie, Meursault commence à prendre conscience de tout ce qui s'est passé, de son passé. Et c'est ce qui donne, ce qui explique la forme du roman. Aujourd'hui, maman est morte. N'est-ce pas la prise en charge par le narrateur, par Meursault, de la narration.
Oui, André Abou, pardonnez-moi justement, parce que c'est un point important et une chose assez étonnante. Je trouve que cette narration au présent qui commence par l'enterrement de la mère est presque... pourrait être contradictoire avec ce qu'est Meursault, qui est un grand indifférent. On pourrait comprendre qu'il commence son récit à partir du moment où il est en prison. Mais quelle est la raison qui fait qu'il aurait envie de prendre, d'écrire un journal à partir de l'enterrement de sa mère ?
Eh bien, c'est très simple. Enfin, en apparence. Il se trouve qu'il n'a pas le sentiment du temps qui s'écoule pendant qu'il est en prison. Jusqu'au moment où il se regarde dans la gamelle en fer, et qu'il prend conscience de son visage, et qu'il entend le son de sa voix. Et c'est de là que date le changement. Il comprend que durant tout ce temps, il a parlé seul. Nous aurions donc affaire à une sorte de journal oral où Meursault essaie, pour comprendre son aliénation, de recomposer tout ce qui s'est passé avant. Et il prend en charge la narration. Donc on a des sauts de puce de la narration qui changent de temporalité au fur et à mesure que l'on avance.
Nous allons maintenant entendre « Killing an Arab », chanson des Cure, inspirée de « L'étranger » d'Albert Camus. Elle date de 1978.
Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm the stranger, killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive.
André Abou, nous venons d'entendre une chanson des Cure inspirée du roman de Camus, L'étranger, Killing an Arab, tuer un arabe. Or, si une chose semble nette dans la relation de Meursault, c'est qu'il n'y a pas de racisme dans son motif, à moins que ce racisme soit si implanté en lui qu'il ne s'en rende pas compte et peut-être n'aurait-il pas tué un Européen.
Il y a des signes qui nous montrent que Meursault n'est pas du tout... disons, affecté par le racisme. D'abord, nous avons l'évidence que, comment dirais-je, lorsqu'il est en prison, qui semble avoir une attitude compatissante vis-à-vis de lui, ce sont des prisonniers arabes qui lui enseignent la façon de nouer la natte et de dénouer la natte pour dormir la nuit. D'autre part, quand il voit comment le brouhaha, lors des visites en prison de Marine notamment, il se rend compte qu'il y a deux couples qui arrivent à vaincre le bruit assourdissant de cette cage où on les enferme. Vous avez les prisonniers arabes qui se sont adaptés et qui parlent lentement et qui parle bassement et qui arrive à se comprendre. Et vous avez une sorte de couple du fils et de sa mère qui réellement s'adapte. Donc, nous avons des signes positifs de la façon dont Meursault envisage la relation avec l'autre communauté. Et si nous allons un peu plus, alors cela nous amènerait à entrer dans un autre concept. Vous savez que Camus a été très sensible à la façon dont Kafka organisait ses romans. Tout l'art de Kafka, dit-il, est d'obliger le lecteur à relire. Et il dispose au sein de sa narration un certain nombre de signes qui montrent que nous sommes à la fois dans le déroulé des événements tels qu'on peut les envisager immédiatement, immédiatresse, mais qu'on est également dans un autre monde. Et si vous regardez par exemple ce qui clôt les dernières lignes du premier chapitre, de la première partie, vous avez l'asile qui est distant de 2 kilomètres, le déroulement du voyage en autocar qui dure 2 heures, etc., etc. Et nous avons des signes qui clignotent et qui nous disent qu'il y a un autre plan de manifestation des faits tels qu'ils se déroulent. Et à ce moment-là, on serait amené à envisager les Arabes comme appartenant à un monde hors de l'histoire. Ils se situent dans la nature, au sens que lui donne Camus, et ils sont les gardiens d'un ordre ancestral qui refuse toutes les vicissitudes de l'histoire.
Il y a une chose aussi assez frappante, mais qui se marque peut-être malgré Camus lui-même, qui est une chose très algérienne, ou en tout cas des pays de soleil constant, si je puis dire, c'est que Meursault est paresseux. Je ne veux pas du tout dire que tout le monde soit paresseux dans ces pays-là, mais il n'y a en tout cas pas le même sentiment de l'urgence que dans les pays tempérés. Il le dit lui-même à un moment, par paresse. Est-ce que vous pensez que c'est réellement de la paresse ou c'est le nom qu'il donne au fatalisme ?
Il est frappé. Il faut se dire aussi que toute la première partie est marquée par la dénonciation de l'absurde, c'est-à-dire de la façon de priver l'individu de la compréhension des événements qui se déroulent. Et on a le sentiment que c'est quelqu'un qui est dans une cabine téléphonique et qui voit les autres faire des gestes sans entendre ce qu'ils disent et sans comprendre pourquoi ils font ces gestes. Donc, nous sommes donc dans un monde particulier, écrasé par l'absurde, et dont il ne se libère que dans les dernières séquences du roman, notamment lors de la nuit qui précède l'exécution probablement, et qu'on a comparé à ce qu'on appelle la nuit de Gethsémani en ce qui concerne le Christ. Et là, ça nous ramène à la préface à l'édition américaine de 1955, dans laquelle Camus dit que Meursault, c'est le seul Christ que nous méritions.
Oui, il y a déjà un élément de révolte, me semble-t-il, de la part de Meursault quand il refuse d'embrasser le prêtre et qu'il se met, enfin, ou de le serrer dans ses bras et qu'il se met à hurler.
Il y a 3 séquences où il se révolte. Il se révolte, effectivement, comme vous le dites, lors de la visite de l'aumônier en prison. La 2e révolte, c'est quand antérieurement, c'est quand il en a assez d'entendre les avocats, l'avocat général, débiter toutes sortes de définitions de ce qu'il est, et qui finissent, comme il dit, à travers l'espace des salles et des prétoires, j'ai quitté ce monde et je n'ai plus écouté. Où il allait d'ailleurs être condamné à l'exécution capitale. Et la troisième partie, c'est la 3e séquence, c'est la scène précédente, la fin où il entend les sirènes du port et où il dit « Pour la première fois, j'ai pensé à maman et j'ai pensé que je n'avais rien à faire en ce lieu. »
Est-ce qu'il n'y a pas même une quatrième révolte qui se manifeste dans le mot ultime du roman qui est, je vais citer la phrase, « Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. » Le dernier mot, c'est haine. Alors là, qu'est-ce qui se manifeste? De l'orgueil ou la révolte finale?
Non, finalement, rejoindre l'humanité, même à travers la haine, qui est un sentiment que l'on porte à l'autre, où l'autre finit par exister. Et pour en quelque sorte la relation à cette exécution capitale, il faut également peut-être se souvenir que Camus, qui était journaliste à Alger Républicain, a suivi particulièrement le procès de Weidmann, oui. un assassin en série, qui a été exécuté en France, a été exécuté. C'était le dernier supplicié avant que Daladier prenne un décret qui interdisait le déroulement des exécutions capitales en public. Et Alger Républicain a publié, à ce moment-là, le 27 juin 1939, une photo où l'on voit le panier où le corps du supplicié va atterrir, une fois l'exécution terminée, et une photo de gens attroupés lors d'une exécution capitale.
Vous parliez de Kafka. Il y a un autre roman, évidemment, auquel on pense en lisant L'étranger. C'est Les derniers jours d'un condamné de Victor Hugo, où, comme nous savons, le condamné en question raconte ce qui se passe. La différence, c'est que le personnage de Hugo est un véritable analyste et qu'il prend parti, mais que finalement, avec des moyens différents, l'un et l'autre arrivent à cette conclusion, c'est qu'ils sont contre la peine de mort. Non d'ailleurs que le roman de Camus serve à ça. Hein.
Non, ils sont contre la peine de mort. Et à ce point d'ailleurs que, à un moment donné, Camus a été prêt de signer, c'était à l'époque, une pétition qui justement dénonçait les conditions dans lesquelles les condamnés étaient exécutés les sentences. Il a, dans les carnets, si on lit, il n'a de cesse que de dénoncer la condamnation à mort.
André Abou, que vous a appris le personnage de Meursault ?
D'abord, la première réaction que j'ai eue quand j'étais adolescent lisant le roman, ça a été de ne pas réagir, de ne pas être intéressé. Je n'ai commencé à m'y intéresser que lorsque j'ai pris conscience véritablement de la façon dont Camus organisait son monde, organisait également avec une particularité que vous avez soulignée en début d'émission, et où il essaie de trouver les bons patronages, les bonnes formules pour écrire un roman qui tienne la route, car il est ébranlé par ce qu'a dit Sartre quand il critique le roman de Mauriac et Thérèse Esquerou, et il dit ceci: Dieu n'est pas artiste, Monsieur Mauriac non plus, en mettant en évidence que Monsieur Mauriac sonde les cœurs et fouille les esprits, alors que dans la réalité, il est impossible, sauf à Dieu, de s'infiltrer dans l'esprit d'un simple mortel. Voilà.
C'était Personnage en personne, le 117e et dernier de la saison. Personnage en personne a été réalisé cette année, comme toutes les années précédentes, par Clotilde Pivin, que je remercie encore une fois pour sa maîtrise, le soin qu'elle apporte à l'émission, dont le son ne serait pas le même sans elle. Je remercie aussi Meryl Moneghetti pour ses précieuses recherches. Je vous retrouverai pour une nouvelle saison de Personnage en personne le 30 août prochain. Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Pierre Faucillon.
À qui c'était un grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis.